Mise au point. Le magazine des politiques publiques.
Bonjour à toutes et tous. Alors l'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la LOM, la loi d'orientation des mobilités, qui a été votée en décembre 2019. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Loïc Buffard, conseiller en charge de la LOM à la DGITM, la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer. Bonjour Loïc Buffard.
Bonjour à tous.
Alors Loïc Buffard, pour commencer, pouvez-vous resituer le sujet et nous parler du contexte dans lequel arrive cette loi d'orientation des mobilités ?
Et volontiers. Tout d'abord, il faut souligner qu'il y a très peu de lois sur les transports, puisque la dernière grande loi sur le sujet, c'est la loi Loti de 1982. Et à l'évidence, beaucoup de choses ont changé depuis. Et je viens de parler de la loi sur les transports. Il y a déjà une première différence majeure, qui est l'ambition de passer les transports aux mobilités. Alors, on pourrait croire que c'est qu'une question de vocabulaire, mais pas du tout. C'est pas qu'un mot a changé. En particulier, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une question d'offre à prendre en compte, mais aussi une demande de mobilité. Et pour bien prendre en compte cette demande de mobilité, c'est nécessaire, évidemment, d'associer étroitement toutes les parties prenantes. Dans ce contexte-là, on a organisé des assises de la mobilité qui ont été lancées en septembre 2017 pour préparer la loi. Elles ont duré 3 mois avec une plateforme internet et plus de 400 réunions publiques. Et au total, il y a eu plus de 30 000 contributions. C'est vraiment énorme. Et 30 000 contributions, ça montre qu'il y a une très forte mobilisation des parties prenantes et que la puissance publique, elle est suivie, voire devancée par d'autres personnes. Donc, il ne s'agit pas seulement d'édicter des règles descendantes, mais surtout de donner des outils à des gens qui ont envie de les utiliser. On est convaincu que la LOM ne sera un succès que si les parties prenantes concernées sont saisies.
Alors, revenons à présent sur les enjeux de la loi. À quelles problématiques est-ce que cette loi entend répondre ?
En simplifiant, il y a 3 grands constats qui ont guidé l'architecture de la loi. Le premier constat, c'est qu'actuellement, 80% du territoire n'est pas couvert par une autorité publique effective en matière de mobilité. Et ne serait-ce que sur le plan économique, c'est pourtant un enjeu majeur. Par exemple, le baromètre des mobilités du quotidien, qui a été réalisé par WeMove et la Fondation Nicolas Hulot, montre que 25% des Français ont déjà refusé une offre d'emploi ou renoncé à postuler faute de solutions de mobilité adaptées. Le deuxième constat, c'est que les externalités environnementales du transport sont très importantes. Le transport, c'est 30% des émissions nationales de gaz à effet de serre, et pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, ils doivent réduire leurs émissions de près de 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. 2030, pour les transports, c'est vraiment demain. Et donc, il faut aller très vite. Le transport, c'est aussi une source importante de pollution atmosphérique. Et la pollution de l'air, c'est la première cause de mortalité subie en France. Et une perte d'espérance de vie qui peut aller jusqu'à 2 ans dans les agglomérations les plus polluées. Le troisième constat qui a guidé l'élaboration de la LOM, c'est qu'il faut réussir à sortir ce qu'on pourrait appeler, en caricaturant un peu, le « tout voiture ». C'est-à-dire qu'il faut créer un environnement favorable à l'innovation, une mobilité partagée active, tout en s'adaptant aux territoires qui n'ont pas les mêmes problématiques.
Et alors, vous parlez d'un environnement favorable au développement de nouvelles mobilités. Quelles sont les mesures qui vont permettre de créer ce contexte favorable ?
Alors, le premier aspect primordial pour développer les nouvelles solutions, c'est déjà d'avoir une couverture complète du territoire par des autorités organisatrices de la mobilité, les fameuses AOM. La LOM, elle commence donc par clarifier les responsabilités et elle prévoit une articulation entre la région et les EPCI qui permet de prendre en compte les besoins de mobilité aux différentes échelles du territoire. Il n'y aura donc pas de zone blanche. Si la compétence n'est pas prise en charge par l'EPCI, c'est la région qui sera autorité de substitution. Ensuite, pour développer les nouvelles mobilités, la LOM, elle permet aussi d'encadrer et de développer l'innovation. Alors, encadrer l'innovation, on voit bien que c'est nécessaire parce qu'il faut des règles pour un développement harmonieux de certaines innovations. Il était nécessaire, par exemple, de préciser les règles pour le développement des services de mobilité en libre service sans station d'attache, ce qu'on appelle en anglais, en plus court, le free floating, ou bien pour les plateformes de VTC de livraison à domicile, afin de créer des conditions de relations sociales plus équilibrées. Et pour développer l'innovation, la loi prévoit différentes choses, je vais citer quelques exemples. Elle prévoit un cadre juridique pour développer le péage en flux libre, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas, il n'y a pas de barrière pour s'arrêter au péage. Elle prévoit un ensemble de mesures pour favoriser le covoiturage, par exemple avec des aides locales, des voies réservées qui peuvent bénéficier aux covoitureurs, des parkings pour le covoiturage dans les nouvelles concessions autoroutières, etc. Et elle prévoit aussi, pour favoriser les services de mobilité, les fameux MAS, l'ouverture des données de l'offre de mobilité, l'ouverture de la billettique.
Alors tout ça, c'est pour l'encadrement de l'innovation, mais qu'est-ce qui est fait pour permettre de réduire l'empreinte environnementale des mobilités ?
Alors pour permettre donc l'émergence de mobilités plus durables, il y a un panel de mesures avec à la fois des obligations et des incitations. Alors pour citer quelques exemples, la loi favorise le développement des véhicules électriques ou des véhicules hybrides rechargeables, par exemple avec des obligations lors du renouvellement des grandes flottes publiques et privées, mais aussi le développement d'autres carburants alternatifs comme le biogaz. Un deuxième exemple, il est prévu de déployer des zones à faible émission dans les agglomérations les plus concernées par la pollution de l'air. Troisième exemple, il y a un objectif très important qui est de faire des mobilités actives un mode de transport à part entière et de tripler les déplacements à vélo d'ici 2024. Et pour ça, il y a un plan global qui prend en compte tous les freins à lever pour le vélo. Et c'est assez nouveau parce que ça veut dire que la loi ne traite pas que de la question des infrastructures cyclables, mais elle traite aussi de la question de la lutte contre le vol des vélos, de l'amélioration de la sécurité routière pour les cyclistes, ou la question de l'enseignement du savoir rouler à vélo pour toute une classe d'âge. Et le dernier exemple, c'est une mesure phare de la loi, c'est la création du forfait mobilité durable qui est là pour favoriser les déplacements domicile-travail en vélo ou en covoiturage, qui est cumulable avec le remboursement des abonnements de transport en commun, avec une défiscalisation qui va jusqu'à 400 euros par an.
Vous évoquiez là rapidement la question des infrastructures. On sait qu'il y a un enjeu fort sur cette question des infrastructures. Alors, que dit la loi à ce sujet ?
Non, d'abord, il est prévu une augmentation significative des investissements dans les transports, puisqu'ils vont augmenter de 40% sur les 5 prochaines années. Mais il ne s'agit pas forcément d'avoir plus d'infrastructures, surtout des infrastructures et des services différents. Donc cette augmentation des investissements, elle s'accompagne aussi, et c'est au moins aussi important que la question du volume des investissements, d'un recentrage sur la mobilité du quotidien, qui a, faut reconnaître, un peu été négligé ces dernières décennies face aux grandes infrastructures. Donc pour cette mobilité du quotidien, qui doit répondre aux besoins de tous les publics, il y a 5 programmes prioritaires qui ont été définis. Il y a l'entretien des réseaux existants, la désaturation des grands nœuds ferroviaires, le désenclavement routier des villes moyennes et des territoires ruraux, le développement de l'usage des mobilités propres, partagées et actives, et dernièrement, le renforcement du report modal dans le transport de marchandises. Et pour accompagner ces stratégies et ces 5 programmes prioritaires, le Conseil d'orientation des infrastructures est pérennisé, ce qui permettra au pouvoir public de bénéficier de l'éclairage de toutes les parties prenantes.
Alors, vous parliez en introduction de cet entretien de la question de la spécificité des publics et de comment on adaptait les mesures à ces spécificités. Alors, comment est-ce que la LOM entend répondre aux besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite, par exemple, ou aux besoins des publics qui ont aujourd'hui des difficultés d'accès à la mobilité ?
Alors, la LOM, elle prévoit effectivement de nombreuses mesures pour la mobilité solidaire. Pour les personnes à mobilité réduite, il est notamment prévu l'obligation de mesures tarifaires spécifiques, y compris pour les accompagnateurs, la simplification de l'accès aux services adaptés, par exemple un numéro unique pour réserver des prestations au départ et à l'arrivée d'un train, une garantie d'accès aux bornes de recharge des véhicules électriques pour les personnes à mobilité réduite, ou encore la collecte de données d'accessibilité, que ce soit pour la voirie ou les réseaux de transport, autour de points d'accès prioritaires pour favoriser l'information sur l'accessibilité des réseaux. Mais et vous l'avez dit, la notion de mobilité solidaire, c'est pas que les personnes à mobilité réduite, ça englobe aussi les difficultés économiques que rencontrent certaines personnes pour leur mobilité. Et donc la LOM confie aux autorités organisatrices de la mobilité une nouvelle compétence en matière de mobilité solidaire, et ça va leur permettre de mettre en place des services de conseil à la mobilité, de subventionner des structures privées d'aide à la mobilité, de verser des aides financières aux particuliers pour l'achat ou la location d'un véhicule, d'un bureau, etc. Et pour coordonner ces interventions pour la mobilité des plus fragiles, la LOM, elle prévoit l'élaboration d'un plan d'action pour la mobilité solidaire, qui est un plan commun entre la région et le département et qui est élaboré en association avec Pôle emploi sur chaque bassin de mobilité. Et je parle de Pôle emploi parce que notamment, l'objectif de ce plan d'action, c'est que chaque demandeur d'emploi ou personne éloignée du marché du travail Elle doit pouvoir bénéficier d'un conseil individualisé pour l'accès, le retour à l'emploi, à la formation professionnelle.
Alors, on a abordé la question des publics aux besoins spécifiques, mais il est évidemment important de parler aussi des spécificités des territoires. Et on parle beaucoup en ce moment des territoires peu denses. Alors, quelles mesures propose la LOM pour ces territoires ?
Alors, effectivement, la question des spécificités des territoires, elle est fondamentale. J'ai dit tout à l'heure que 80% du territoire n'était pas couvert par une autorité effective en termes de mobilité aujourd'hui. Et c'est bien un révélateur important des disparités territoriales. La première réponse pour la prise en compte des spécificités territoriales, c'est que la loi, elle fixe certes un cadre général, elle pose des principes forts, notamment le principe de la fin des zones blanches en matière d'autorité organisatrice de la mobilité, mais elle laisse surtout une souplesse quasi totale au territoire pour la mise en œuvre. Un exemple, c'est que la loi n'impose pas aux autorités organisatrices de la mobilité de mettre en œuvre du transport collectif. En effet, pour s'adapter aux besoins de tous les publics, on considère que le panel des solutions est beaucoup plus large. La mobilité, ça peut être des transports réguliers, que ce soit urbain ou non urbain, ça peut être du transport à la demande, ça peut être du transport scolaire, des services de location de vélo, des services d'autopartage, des services de mobilité solidaire, un soutien aux mobilités actives ou partagées, etc. On voit donc que la mobilité, c'est pas du tout limité au transport collectif, c'est pas toujours la solution adaptée au territoire, et donc il faut laisser de la souplesse au territoire pour trouver les solutions adaptées. Et donc pour bâtir ces solutions, chaque collectivité pourra progresser à son rythme. Donc il y en a qui sont aujourd'hui déjà bien avancés, qui pourront aller un peu plus loin, un peu plus vite, et puis d'autres, pour qui c'est un peu nouveau, qui pourront commencer progressivement. La date de prise de la compétence d'AOM, c'est pas le grand soir de la mobilité, c'est le début d'un processus progressif de montée en compétence et mise en place de solutions de mobilité. Donc la première réponse, en résumé, c'est de laisser de la souplesse au territoire. La deuxième réponse pour la prise en compte des spécificités territoriales, c'est la coopération entre collectivités. La LOM, elle prévoit que la compétence d'AOM, elle est confiée aux EPCI et elle incite les comités de communes à se saisir de la compétence d'AOM parce qu'on considère qu'il faut une certaine taille critique pour pouvoir endosser cette compétence, ça c'est évident. Mais par ailleurs, aucun niveau de collectivité territoriale n'a la totalité des solutions pour répondre aux besoins de tous les publics. Donc la LOM a prévu de structurer l'action territoriale principalement autour du couple qui est constitué d'une part de la région et de l'autre part des EPCI, avec bien sûr le département pour la mobilité solidaire. Ça veut dire qu'il est essentiel que ces collectivités coopèrent et mettent en place des solutions cohérentes et complémentaires. Et pour nous, coopérer, c'est déjà aussi préserver les services déjà mis en œuvre. Puisqu'il y a déjà un fonds de service, que ce soit par la région dans le ressort d'un EPCI qui deviendrait OM, ou même des fois des services mis en place par la commune. Et la LOM, elle n'a pas du tout vocation à bouleverser ce qui existe déjà et ce qui fonctionne bien. Son objectif, c'est de faire mieux et c'est de faire plus. Et donc, dans la LOM, il y a des dispositions pour permettre de préserver aussi ces services qui sont déjà mis en œuvre. Et plus globalement, pour cette question de la coopération, la LOM, elle prévoit la signature pour chaque bassin de mobilité d'un contrat opérationnel de mobilité. Et ce contrat, il sera signé sous l'impulsion de la région avec l'AOM régionale, les AOM locales, le département, avec les gestionnaires de gares et de pôles d'échange, et doit permettre d'avoir une action cohérente sur un territoire avec une coordination des actions et en particulier pour les horaires, la biétique, l'information, pour organiser les systèmes de rabattement et les pôles d'échange multimodaux, ou encore pour prévoir la continuité en situation dégradée, que ce soit du fait de grève ou d'intempéries par exemple.
Mais alors, Loïc Buffard, concrètement, pour les territoires peu denses qui seraient les plus novices en matière de mobilité, qu'est-ce que vous préconisez ?
Alors, je crois d'abord beaucoup à la concertation avec toutes les parties prenantes. C'est un outil vraiment très important pour faire émerger les problématiques et les idées. On l'a vu pour la LOM, on en a parlé au début, les assises de la mobilité, ça a été une source incroyable de propositions. Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'idées dans tous les territoires, il faut vraiment les mobiliser. La loi, elle prévoit d'ailleurs la mise en place d'un comité des partenaires par chaque autorité organisatrice de la mobilité, que ce soit au niveau régional ou au niveau local, et c'est un bon outil pour faire émerger les problématiques et les propositions. Ensuite, la LOM, elle a aussi prévu de faciliter les rapprochements avec les syndicats mixtes existants pour bénéficier de leur expertise. Par exemple, elle permet de différencier le taux de versement mobilité par territoire, donc c'est plus facile pour quelqu'un de venir se rapprocher d'un syndicat mixte existant. Et elle permet aussi, la loi, le recours à l'assistance technique que peuvent apporter les départements aux EPCI. Cette assistance technique, elle intègre désormais les questions de mobilité. Et enfin, il y a aussi les démarches qui sont impulsées par l'État, notamment avec l'ADEME ou France Mobilité, qui ont créé un certain nombre de guides et qui prévoient aussi des soutiens financiers pour certains projets. Je pense par exemple à l'appel à manifestation d'intérêt TEDMOD, à des programmes de certificats d'économie d'énergie qui peuvent bénéficier au vélo ou aux bornes de recharge électrique, à la dotation de soutien à l'investissement local qui peut financer également des investissements, etc. Et en février, on a également lancé un appel à expérimentation spécifiquement ciblé pour les territoires ruraux pour tester des nouvelles solutions, et y compris en levant des contraintes législatives ou réglementaires si cela était nécessaire.
Alors merci beaucoup. On ne peut quand même conclure cet entretien sans parler de la situation exceptionnelle que nous traversons actuellement et qui va fortement impacter le monde de la mobilité. Je pense notamment à l'utilisation des transports en commun, du covoiturage, mais également à la pratique du vélo ou de la marche à pied. Alors, quel serait votre message pour que cette crise ne signe pas l'arrêt de tous les projets en faveur de mobilité plus durable ?
C'est vrai que les défis à relever sont très importants. Il ne faut pas se voiler la face, que ce soit pour les transports collectifs qui souffrent très fortement de la crise ou pour certaines innovantes dont le modèle économique était encore très fragile. Mais je crois qu'en dépit de la gravité de la situation générale, et même ça peut sembler un peu paradoxal, il faut rester optimiste sur ce sujet et pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'est que la situation actuelle, finalement, est un peu ambivalente pour les mobilités durables. On voit, par exemple, que pour le vélo, il existe une dynamique positive extrêmement forte, et le gouvernement vient d'ailleurs d'annoncer, fin avril, un plan de soutien de 20 millions d'euros au vélo. Ensuite, deuxième raison, c'est que ce serait une erreur de penser que la voiture individuelle, elle peut constituer une alternative crédible. D'abord, les infrastructures ne le permettent pas. Ensuite, ça règle en rien la question économique dont on a parlé pour ceux qui ne peuvent disposer d'une voiture individuelle ou au regard du coût que ça représente pour ceux qui en ont une. Et enfin, il ne faut pas négliger les effets sanitaires de la pollution atmosphérique qui, au passage, est d'ailleurs suspectée d'avoir un effet aggravant sur l'épidémie de Covid-19. Donc le développement des mobilités actives et partagées, il est toujours essentiel, en s'appuyant notamment sur le forfait mobilité durable, dont les textes d'ailleurs devraient être publiés très prochainement pour le secteur privé d'ici mi-mai, mais aussi en s'appuyant sur les mesures en faveur du covoiturage, qui reste une solution pertinente. Dans le contexte de crise, on a lancé mi-avril une boîte à idées France Mobilité pour identifier les initiatives innovantes qui ont été mises en place dans ce contexte, pour les accompagner et puis potentiellement les dupliquer sur le territoire. Depuis, on a déjà près de 50 initiatives qui ont été remontées au service de la santé, de l'économie sociale et solidaire, de la logistique ou encore de l'alimentation ou du développement des circuits courts. Vous savez, je crois que la société, elle sent bien que les remèdes de court terme, ils doivent, malgré l'urgence des situations à résoudre, s'inscrire dans une vraie vision de long terme. C'est d'ailleurs le sens des réflexions du gouvernement, qui sont bien guidés par l'enjeu de résilience et de transition écologique et qui prévoient un volet de soutien aux nouvelles mobilités. La crise, elle bouscule nos certitudes, elle nous force à changer de paradigme, mais développer des mobilités plus durables, c'est aussi cela. Donc, c'est à nous, collectivement, de faire en sorte de faire émerger ces nouvelles mobilités. Et je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Le monde de demain, comme on dit, sera surtout celui que nous ferons.
Merci beaucoup Loïc Buffard. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes conseiller en charge de la LOM à la DGITM, la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer.
Merci, au revoir.
Au revoir à tous et à bientôt pour une prochaine émission.
Mise au point. Le magazine des politiques publiques.